Cube Radio.
La 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 la, je nous fais une intro spéciale.
Mais ce qui est spécial, si tu le dis, qu'est-ce que c'est?
Depuis quelle heure que t'es debout, Cathy? Salut à nos fans de verres d'oreilles, de bandes sonores, de souvenirs musicaux et de musique, bref. Bienvenue à notre nouvel épisode du podcast de Pays sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de ma très chère collègue et amie Kazi.
Allô!
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va, ça va. T'as l'air plus allumé que moi.
Ça fait longtemps que je suis debout.
Ouais, c'est pour ça. Ouais. Alors, à chaque semaine, on amènera dans vos oreilles un sujet lié de près ou de loin aux jeux vidéo. Et pour cet épisode, on a un invité, c'est notre boss, fin connaisseur du sujet d'aujourd'hui, chroniqueur, critique et homme, André Péloquin.
Ben voyons, ça va donc bien l'air
bonjour.
Avec mépris.
Je les ai obligés à me recevoir aujourd'hui.
C'est ça, non, c'est notre boss. Il a non, dit genre, là, parler de musique. Là,
faut parler de moi? Non, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Notre sujet d'aujourd'hui, car c'est... La musique.
La musique de jeux vidéo.
Puis ouais. Bien, on s'est dit, on va éviter qu'André parce que ça a l'air qu'il est bon là-dedans.
Ouais.
Ben, comme vous là, dans le fond là.
C'est mais moi, je trouve, honnêtement, t'as tellement un lien fort avec la musique, puis mm-hmm. tu parles tellement tout le temps de musique, puis.
Désolé.
Mais non, mais de gaming aussi. Fait que je pense que t'es l'invité parfait pour.
Ben, je sais pas si je suis parfait, mais moi, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour
c'est
en parler.
Ça,
c'est un sujet que j'adore.
On sent beaucoup ton enthousiasme là-dedans. Fait que je pense que tu vas pouvoir nous donner des exemples vraiment pertinents de musique de jeux vidéo. Ben,
vous m'avez fait réouvrir là, juste pour vendre un peu ma salade. Vous m'avez fait vraiment réouvrir ma boîte de souvenirs. Là. Je vais vous parler d'un vieux jeu qui est sûrement sorti avant que vous soyez né, mais qui m'a vraiment marqué, qui a peut-être fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Là.
Ah, c'est excellent. Dans le fond aussi, on va parler un petit peu des différences de musique, de jeux vidéo, parce que mm-hmm. c'est pas toute la même affaire. Là. C'est pas tout un gars dans son salon qui fait la musique pour le jeu d'attitude.
Vraiment pas, là.
C'est vraiment des trames sonores, comme au cinéma. Il y en a qui vont opter justement pour des exemples de musique qui existent déjà. Ils vont les intégrer au mm-hmm. jeu, des chansons qui vont être écrites pour les jeux. Donc, André, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Moi, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti en 1986 qui s'appelle...
J'étais effectivement pas née.
Non, bon, non plus.
Je l'ai... Le temps passe tellement vite.
En tout cas, bref, on veut d'ailleurs rappeler qu'André est né en 79.
OK, ça, c'était vraiment pas cool. On coupe ça au montage, s'il vous plaît.
Nope.
C'est un jeu qui est sorti en 86 sur l'Intellivision et c'est vraiment le jeu qui m'a fait réaliser que, mon Dieu, on peut avoir des liens forts avec la musique et sûrement que c'est le jeu qui m'a fait comprendre ça bien avant de la musique en tant que telle qu'on écoutait à la maison. Là. C'est quelque chose.
Donc, c'est fort. Dans le fond, ton lien avec la musique est arrivé dans le jeu vidéo en premier.
Ça et Cat Stevens, parce que mon père écoutait ça à répétition. Es-tu en train de rire de Cat Stevens?
Es-tu en train de rire de Cat Stevens? T'avais-tu des daddy issues, genre?
Il y a une chanson qui s'appelle Father and Son, hein?
on vous
le rappellera. Toum, toudoum, 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 toudoum. En tout cas, bref. Ben oui, non, mais sans blague, je pense que vraiment Thunder Castle a contribué à ma curiosité musicale, du moins.
Bravo.
Le silence parce que Kazi buvait une gorgée.
Oui, je buvais une gorgée. Mais peux-tu me donner des exemples, dans le fond, pourquoi ça t'a touché tant que ça?
Ben oui, écoutez, si vous voulez, je peux vous en parler dès maintenant. Alors, c'est quand même assez incroyable parce que, tu sais, maintenant, avec les jeux comme Red Dead Redemption 2 et compagnie, quand on se rend au générique, c'est vraiment un générique de cinéma, là, tu sais, je veux dire, avec des dizaines, des centaines de personnes qui collaborent à un jeu. Même maintenant qu'on introduit un peu les babies aussi, les bébés qui sont nés pendant la création d'un jeu. Ici, Thunder Castle, c'est un jeu qui a été créé par deux personnes. Une dame qui s'appelle Connie Goldman, qui a fait les graphismes, et David Warhol, qui a occupé la programmation et de la musique. OK, vu que c'est un jeu à télévision, puis c'est un jeu qui est sorti en 86, on s'entend que la trame narrative est hyper simple. C'était un chevalier qui doit vaincre des créatures comme des sorciers, des rats, des dragons, coincés dans un labyrinthe. Mm-hmm. Et ça, c'est toute ta vie jusqu'à temps que tu meurs. Comme ton chevalier, pas toi idéalement. Et c'est ça, c'est un jeu de pointage. Dans le fond, ton but, c'est de faire le plus haut pointage ever. Mais mine de rien, tu sais, même si c'est vraiment assez banal comme trame narrative, tu peux ajouter ça à n'importe quel autre jeu, surtout n'importe quel autre jeu de l'intellivision. Mm-hmm. Ce qui distingue ce jeu-là de la collection des jeux vidéo intellivision, voire même de l'époque, c'est sa sélection musicale. Mais avant, j'aimerais vous parler un peu de l'intellivision.
Oh!
Oui, parce que, tu sais, faut quand même se rendre compte, le cheminement qu'on a fait, c'est une console qui a été lancée en 79 par Mattel pour faire compétition.
Mattel, quand même.
Oui, pour faire compétition à Atari. Fait que c'est la première guerre de consoles, là, mine de rien. Fait que c'est ça. Ça, c'est lancé en 79. Louis, l'année de ma naissance, Christine Lemousse. Fait que là, on est en 86 quand ce jeu-là sort. On est vraiment presque à la fin de parcours de la console à la télévision. Et c'est aussi la première console 16 bits, bien avant la Super Nintendo et le Genesis. Mais on se ramasse avec des graphismes un peu préhistoriques, pardonnez-moi l'expression, parce
non,
que
c'est vrai.
On n'avait pas les ressources matérielles, le hardware, pour appuyer ce que l'Intellivision avait l'ambition de faire. Fait que c'est ça, la fin de production de l'Intellivision, c'est en 90, alors que la corporation INTV a repris la console à Mattel. Et INTV faisait aussi des produits pour Nintendo et Sega. Et c'est ces derniers qui leur ont dit, comme, excuse, tu peux pas avoir une console pour faire des jeux pour nous. Et comme le marché Nintendo et Sega était beaucoup plus lucratif, c'est comme, bye bye, Intellivision. Mais ouais, c'est pas là que ça a arrêté. Mine de rien, l'Intellivision, il y a eu, INTV a produit des compilations de jeux qu'on peut retrouver notamment, je pense, sur la PlayStation 2 qui s'appelle Intellivision Lives. Et je crois que c'est en 2020, en tout cas, dans quelques années, il y a des gens liés à l'Intellivision qui vont lancer l'Amico, une nouvelle console Intellivision avec des jeux remasterisés. Ça a l'air d'être un bordel total. Je ne sais pas quelle clientèle on va aller chercher avec ça. Oui, la nostalgie, mais comme je vous disais, les jeux sont tellement... Tu ne peux pas t'attacher vraiment à un jeu d'Intellivision parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est vraiment... En tout cas, on va voir...
C'est très linéaire.
C'est ça, exactement. Fait que là, on va voir c'est quoi la limite de la nostalgie avec cette console-là.
C'est très géométrique aussi.
Ouais, c'est ça.
Exactement, c'est des blocs. Et tu marques un certain point ici, Christine. Comment on peut être émotif face à des blocs? Eh bien, c'est ça, c'est face à la musique. C'est ça. Ben là, c'est un des multiples moyens, en fait. Mais ce qu'on doit souligner aussi, c'est le travail, en fait, de Connie Goldman, qui était graphiste et qui a collaboré à beaucoup de jeux Mattel. Fait que, parce que c'était une excellente graphiste. Fait qu'il y a des jeux comme Garfield, par exemple. Tu sais, tu peux pas avoir genre un bloc orange. Ça, c'est Garfield. Faut le reconnaître. Fait que c'est ça, c'est, je m'excuse le lingo en anglais, mais était vraiment bonne de faire des grosses sprites, là. Il y avait comme des espèces de petites animations assez rudimentaires pour introduire les différents niveaux. Mais c'était quand même assez épeurant parce que c'était des grosses sprites de magiciens méchants, de dragons méchants et tout ça. Et c'était accompagné aussi de musique ténébreuse, qui à l'époque, j'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment bon. Puis là, tu te rends compte, hey, attends, c'est de la musique classique. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, ça a été, mine de rien, ça a déjà été allumé mon intérêt pour la musique classique qui est très en dilettant, on se l'entend. C'est pas le premier jeu, en fait, à utiliser la musique classique, loin de là. C'est comme justement, Mattel avait comme une espèce de petite spécialisation pour les jeux de marque, en fait. Ils ont fait un jeu sur Popeye aussi. Fait qu'évidemment, c'est un jeu sur Popeye. Tu veux avoir un personnage qui ressemble à Popeye, mais tu veux aussi la toune de Popeye.
C'est des licences.
Exactement. C'était la première console vraiment à carburer aux licences. Pour Thunder Castle, par exemple, ce qui fait sa distinction, c'est que vraiment, toute sa trame sonore, c'est des musiques classiques et c'est ce qui véhicule des émotions aussi. Comme par exemple, t'es coincé dans un labyrinthe avec des créatures qui veulent vraiment te faire mal. C'est leur but dans le jeu. Tu sais, déjà là, tu sais, sans musique, c'est un peu comme bon, OK, je suis un peu coincé, c'est un peu plate. Mais si t'accompagnes ça de la symphonie numéro 8 de Schubert, par exemple, là, tu sens une espèce de désespoir que, oh mon Dieu, je vais mourir, ça va vraiment mal, et où la sortie? Patati patata.
La musique classique qui a tellement un impact fort sur les émotions. On dit comme Bugs Bunny, mettons, là, tu sais, c'est un bel exemple de l'intensité de la musique, tu sais, OK, là, ça court. Tout ça, je pense que c'est quelque chose qui se traduit très, très bien dans le monde du jeu vidéo.
Puis tu marques un très bon point. Il y a eu un opéra aussi avec Bugs Bunny. Ils n'ont pas repris du Wagner, là, justement.
Exactement. Puis tu sais, c'était des pièces enregistrées pour Bugs Bunny. Donc, c'est fascinant de voir comment qu'une musique qui est tellement loin de notre époque peut jouer sur nos émotions dans un monde tellement moderne comme le jeu vidéo. Même, bon, la télévision, c'est pas moderne, mais tu sais, dans ce temps-là, ça l'était.
Ben oui, totalement. C'était à la fine pointe. En fait, si je me rappelle bien, là, les inconditionnels du jeu vidéo, vous pouvez m'envoyer des courriels pour me vilipender. Mais si je me rappelle bien, l'intellivision, vraiment... Ou du côté sonore, finalement, torchait l'Atari. Il y avait vraiment un meilleur hardware.
L'Atari, c'était quelque chose aussi.
Oui, c'était quelque chose, mais il paraît que l'intellivision, ça sonnait mieux. C'est un peu comme Super Nintendo, puis Genesis, puis Super Nintendo, le son, c'était meilleur. En tout cas, plusieurs s'entendent là-dessus, non?
Non, je pense que c'est le contraire,
Le Genesis avait des meilleurs sons?
Yeah, girl!
Ah non, tu niaises.
Ouais, ben, c'est tout le reste qui était là.
Ben, je vais m'envoyer un courriel à moi-même, me dire non, l'intellivision, finalement, ça sonnait avec le cul, mais Genesis est meilleur. Oh non, j'ai tellement détesté.
Genesis Dolls.
Tous les sons. Écho Dauphine, là, Écho le Dauphin.
Ah, c'est genre l'exception, mais sinon, tous les
non, non.
À tous les sons effect du Genesis, comme. Tu sais, c'est comme on dit. C'est un bureau de dentiste.
Parce que c'est les jeux qui étaient poches.
Ah, non, c'est quand même coincé dans le bureau du dentiste. Tout est comme couinard, puis ah, c'est désagréable. Pour revenir à un jeu qui est beaucoup plus agréable que les sons de Genesis, Thunder Castle, pour souligner la joie du joueur quand on termine un des labyrinthes, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut passer, c'est comme un peu Pac-Man dans le fond, faut passer à travers ton ennemi quand tu prends un power-up. Là. Puis quand tu finis de finir, t'as une petite musique de victoire qui joue, puis c'est vraiment le fun, c'est une sonate de Domenico Scarlatti. C'est comme... Je la fais très très mal. Mais tu sais, vraiment, quand t'as fini au niveau, comme... Yeah! Yeah! J'ai fini, man! Yeah! OK? Et quand on met la main justement sur l'item qui te permet de te donner le courage de te défendre, un peu comme la grosse boule dans Pac-Man, là, c'est la 8e symphonie d'Antonin Dvorak qui embarque. Pis c'est vraiment une musique, là, tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est vraiment une musique qui est comme...
C'est comme
oh! Oh là, c'est à mon tour! Oh là, je vais te faire mal!
Mais dans le fond, c'est comme ça... Mettons comme dans Zelda, c'est le ta-na-na-na.
Ouais, exactement.
Mais à la place, c'est une vraie chanson.
Exactement.
Qu'on peut reconnaître.
Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, justement, avec Zelda, j'imagine, c'est qu'on avait l'ambition de nos moyens et tout ça, ou peut-être de meilleurs compositeurs aussi, parce qu'on a aussi une équipe beaucoup plus nombreuse. C'est comme genre, c'est quand même maintenant assez rare que le programmateur, c'est aussi ton gars qui s'occupe de la musique. Et bien évidemment, comme je vous disais tantôt, Thunder Castle, c'est loin d'être le premier jeu de l'époque à manipuler, entre guillemets, le joueur avec la musique. Il y a par exemple Frogger en 81 modifie sa musique au gré des actions des joueurs.
Oui.
Et Dig Dug, ça c'est vraiment super intéressant. On, t'sais, avec le recul, on y pense. C'est sorti en 82 et Dig Dug nous encourage à jouer parce que la musique arrête quand tu arrêtes de faire bouger ton personnage.
Si tu veux, ça me stresse. Ça.
Exactement.
Oh, stress.
Comme voyons. Je vais recommencer à bouger là-bas. C'est fou, Red. Le jeu te pousse à jouer si tu veux entendre la trame sonore qui est quand même
assez brillant.
C'est très brillant,
c'est ça, mine de rien. Puis, tu sais, des années plus tard, on fait des bons géants. Là, je veux dire, comme on pense par exemple à Tony Hawk Pro Skater, à Rock Band et tout ça, là, on se ramasse avec des trames sonores, tu sais, de musique empruntée évidemment. Puis des fois, il y a des groupes aussi qui offrent leur musique parce que c'est de la bonne promotion. Puis, mine de rien aussi, tu sais, je pense notamment à Tony Hawk Pro Skater. Mon Dieu, c'est vraiment, on ouvre des boîtes de souvenirs en direct. Ça a été sûrement ma première initiation au rap, là. T'sais, je veux dire, je savais évidemment que ça existait pis tout, pis, mais tu sais, à l'époque, j'étais vraiment pas un hip-hop heads, pis je le suis pas encore à ce jour. J'ai vraiment une grande curiosité pour la scène et tout ça. Mais avec Tony Hawk Pro Skater, je suis comme, il y a vraiment du bon matériel, c'est vraiment bon. Puis on a commencé à creuser, parce qu'auparavant, j'étais plus un fan de punk rock. Puis c'est la même affaire aussi avec la série Rock Band ou Guitar Hero. Là. J'ai redécouvert mes classiques du rock avec ça. Et j'imagine que c'était...
On trouve de tout un peu là, dans Rock Band et Guitar Hero, mettons. Je pense que c'est des jeux qui ont introduit beaucoup le rock à des jeunes générations qui connaissaient peut-être pas The Strokes ou qui connaissaient pas, mettons, du jeu Dragon Force.
Totalement.
Ou des classiques du rock qui, là, maintenant, tu sais, souvent, on entend les jeunes, ah ouais, je connais cette tune à cause de Guitar Hero.
Exact.
C'est, ou de Rock Band. Fait que je pense que ces séries-là, mettons, même s'ils se faisaient à compétition, ils ont contribué un peu à la même chose.
Ouais, totalement. Moi, Dragon Force, je vais associer ça éternellement à Guitar Hero, comme la tune à battre, là. C'est fou raide.
Ouais.
Mais c'est le fun que justement, Thunder Castle va chercher de la musique classique parce que quand t'écoutes ça plus tard, t'es comme, ça ramène des souvenirs.
Oui, totalement.
Ça ramène des souvenirs doux, comme pour toi.
Oui.
Ça a ramené des souvenirs doux de ton enfance.
Ah, ouais, quand même. Ça m'a ramené justement à cette époque-là. Je suis comme, mon Dieu, quand ça se fait que je me sens vraiment triste en jouant à ce jeu-là, ben c'est ça.
Puis là, tu te rappelles parce que, genre, t'es mort tout seul dans un labyrinthe.
Puis la musique l'appuyait aussi.
Et la musique appuyait.
Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais justement, quand ton personnage meurt, la musique est tellement dramatique. Je suis comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non!
C'est ça.
La musique, justement, a un rôle important sur les émotions du gamer, mais tu sais aussi, mettons, 20 ans plus tard, t'entends une chanson d'un jeu vidéo ou surtout quand c'est des chansons qui existaient avant le jeu,
oui.
T'as plus de chances de retomber dessus par accident
oui.
Que, mettons, OK, je m'en vais chercher la trame sonore de Zelda.
Mm.
Quand ça t'arrive, tu te revois assis devant la télévision, tout petit, en boule, tu sais, avec ta manette ou etc., Ça te replonge, parce que tu sais, ils disent que les sons et l'odorat aussi,
oui.
ça va dans le fond déclencher des souvenirs facilement. Je pense que c'est fascinant, c'est beau à vivre.
Totalement.
Puis je pense que le jeu vidéo exploite super bien ce métier.
Ah, tout à fait.
À quand un Zelda qui pue, en fait? Mais plus sérieusement, par exemple. Exactement. Mais plus sérieusement, là, maintenant aussi, ce qu'on constate, c'est que le chemin contraire se fait. Tu parlais de la trame sonore de Zelda, par exemple. Ouais. Ben là, maintenant, il y a des orchestres symphoniques qui la reprennent.
Exactement.
Il y a des tournées mondiales maintenant, là. Ouais. Il y a des disques aussi de compilation d'orchestres qui reprennent des thèmes de jeux vidéo. Tu sais, pour des gens qui sont comme, ah, les jeux vidéo, c'est une distraction et tout ça. Non. C'est des œuvres d'art. Et maintenant, justement, il y a des orchestres qui vont reprendre ces œuvres d'art-là, parce que puis non seulement tu vas chercher un public mélomane, mais aussi le public des gamers,
ouais,
qui des années plus tard, tu sais, je veux dire, ils sont marqués jeunes.
À tout jamais, c'est ça.
C'est ça, exactement. Fait que, ils vont dépenser des sous pour ça. C'est pour ça que, justement, ça peut être de calibre mondial ou nord-américain, tout ça, c'est tourné là, parce que, je veux dire, c'est presque un succès assuré. Tu vas chercher plusieurs publics qui est prêt à investir là-dedans.
Puis des fois même, ça va toucher des gens qui sont pas gamers, qui sont pas mélomanes nécessairement. J'ai une petite anecdote cute pour vous. moi, j'ai joué à Ocarina of Time. Je reviens beaucoup à Zelda, mais musicalement, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué. Mm-hmm. Parce que j'ai joué très jeune avec mon père. Je jouais à Ocarina of Time. J'avais 9-10 ans quand c'est sorti. Mon père l'a battu, je pense, 3000 fois.
Tabarnouche!
C'est ça, fait qu'on passait des après-midi, on jouait à ça quand il neigeait ou quand il pleuvait, tu sais. Parce que quand il faisait beau, on jouait dehors.
Bon, au moins, c'est rassurant. J'allais te le demander, mais OK.
C'est ça, mais tu sais, il y a de la musique qui est facile à reconnaître, mais je me rappelle récemment, là, ça doit faire peut-être 5 ans de ça, une chanson précise, c'est la musique qu'on entend quand on entre dans une pièce ou dans la maison de quelqu'un. C'est tin, 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 la chanson de Zelda. Elle a joué, je pense, à cause que je regardais une vidéo sur YouTube chez mes parents, puis ça jouait. Puis ma mère a dit, oh, je reconnais ça, cette musique-là. Puis j'ai fait, ah, tu te rappelles de ça, dans quel sens? Elle dit, je pense que c'est le jeu que vous jouez quand vous étiez petit.
Ben non!
Et j'ai fait comme, wow, ma mère a reconnu cette chanson-là. Elle dit, j'ai entendu ça, Cass, toute ton enfance, cette chanson-là. Elle a dit Karine, honnêtement, la petite casse. Elle dit, j'ai entendu ça toute ton enfance, cette chanson-là, puis j'ai jamais rien dit, mais mon cerveau s'en rappelle, puis j'ai fait comme, wow!
Mais est-ce que c'est une chanson qu'elle appréciait ou qu'elle était comme, ah, pas encore?
Ben, je pense que c'est associé tellement à un souvenir positif de voir sa fille s'amuser avec son père,
ouais,
qui a finalement grandi pour travailler dans ce monde-là. Je pense que ça peut juste être associé à un souvenir positif. Mais mes parents, on s'entend qu'ils sont là, 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 là. Tu sais, c'est du monde qui gambade partout. Ils sont bien heureux. Fait que je pense que.
Tes parents, c'est des elfes?
Non, mes parents, c'est des gens très heureux. Fait que je pense que ça peut juste être associé à quelque chose.
Ah, ben, tant mieux.
Même si la toune, techniquement, pourrait taper ses nerfs, moi aussi, quand je l'entends, ça me fait tellement plaisir.
Toi, Lemus, as-tu des musiques qui ont eu un impact sur toi?
Il y a en fait une bande sonore,
une
en particulier, qui m'impacte encore aujourd'hui à 30 ans.
Mon Dieu, quoi donc? T'es si jeune.
Mais oh, merci, c'est gentil.
Mais on n'est pas jeune, c'est toi qui es vieux.
Regardez mes mains. Regardez mes mains.
On peut pas regarder les mains dans un podcast. Anyway, donc on va se rappeler Noël 94. Hein? Pas toi, parce que toi, t'avais un Genesis.
OK, j'ai compris, on parle d'un jeu Super Nintendo.
Donc, tous ces enfants qui avaient un Super Nintendo déballaient presque tous le même cadeau.
C'était quoi?
Donkey Kong Country.
Yeah! Oh! Très bon choix!
Alors, je crois que ce jeu était, à mon avis, prédestiné à être une réussite mondiale.
Mm-hmm. Okay. Ben, les efforts ont été faits pour.
Mais, si je ne me trompe pas, c'est un des premiers jeux nord-américains qui a comme percé mondialement.
Ah oui, il y a des records associés à ça.
Et Miyamoto, dans le temps, il n'aimait pas le jeu.
Mais voyons donc.
Il trouvait ça laid.
Mais voyons donc.
Mais c'est vrai, il trouvait laid. Il trouve encore laid aujourd'hui.
Mais il n'est pas beau.
Il n'est pas très beau.
Il est coloré, les couleurs sont magnifiques, mais les textures sont rough.
Oui, mais pour l'époque, l'effet 3D était comme réussi. Le monde était comme,
OK,
là.
Pour du 94, c'était quand même réussi.
C'est ça. Puis je pense qu'avec le Vaporwave et tout ça, je pense qu'il y a une esthétique un peu qui est revenue aussi à la mode bien malgré.
Tu veux-tu te plugger Vaporwave et esthétique dans un podcast?
Esthétique!
Quoi, fallait pas?
Non, je suis juste fière de toi.
Ben,
t'es encore plus millennial que nous.
Ouais, non, j'essaie j'essaie d'apprendre de vous, là, mine de rien. Mes écouteurs, des fois, je fais juste les mettre pour que vous pensiez que je vous écoute pas, mais je vous écoute. Je vous étudie. Bon, on retourne à Christine.
Alors, Rare a demandé à David Wise, qui est maintenant un nom que tout le monde connaît.
Mais tu sais,
il est connu par sa famille.
Disons que j'ai un ami, genre, là, qui ne sait pas c'est qui David Wise. Là. Disons que c'est un auditeur de ce podcast-là, puis il s'appelle André. C'est qui David Wise?
David Wise est un compositeur qui a notamment composé la musique de Battletoads.
Ah, mon Dieu.
Double Dragon.
Tarnouche.
Donkey Kong Country 1, 2 et 3. Donkey Kong 64. Diddy Kong Racing. Star Fox Adventure. Et le dernier Donkey Kong Country Tropical Freeze.
OK, il est vraiment attaché depuis le début à la licence.
Et Ukulele.
Ah, bon, et voilà.
Oups.
Ouais, non, mais ça, c'est correct, regarde.
Oups.
Bref, son son est très iconique, il est vraiment un son unique qu'on reconnaît tout le temps. On mm-hmm. sait qu'on va avoir affaire à un jeu dont David Wise a composé la musique.
D'accord.
Et donc, il a vraiment su implanter des sons, des mélodies qui collent à l'environnement. Puis, même de façon minimaliste, on sait où est-ce qu'on est. Hein, t'sais. On sait c'est quoi qu'on va jouer, on sait c'est quoi l'environnement dans lequel on va se placer. Puis, juste comme ça, là, la première chanson du premier tableau de Donkey Kong Country, mm-hmm. on l'entend juste une fois dans le jeu.
Pour vrai?
Ah ouais?
Juste une fois. Je pense que j'ai recommencé le niveau tellement souvent qu'elle m'est restée
mais
dans la tête.
Mais c'est exactement ça. C'est ce qui a fait que c'est la chanson de Donkey Kong Country.
Tu peux-tu chanter un peu?
Non.
Oh non!
Moi, je me rappelle surtout de la musique d'introduction, là. Puis là, ça prend. C'est des rythmes très tribaux, très jungle. C'est vraiment une bonne recherche de bruit. Mais ça, parle donc justement. C'est ça, tu parles, tu sais, comme à la minute que tu rentres dans un environnement, c'est comme la musique lui convient. T'es tel un collant là, sur une cuisse.
Exactement. Ben, on va se rappeler du niveau juste après, le niveau de la cave, où est-ce qu'il y a les serpents puis les stalactites.
Oui,
tout,
oui,
ouais.
Oui.
Mais dans la musique, là, si on porte attention à la musique, la seule chose qu'on entend, c'est du xylophone
mm-hmm.
puis des gouttes.
Ah, les gouttes, man!
That's it, là.
Mais c'est ça, c'est un effet très caverneux dans
exactement,
la musique.
Exactement, mais c'est tellement minimaliste.
Il y a comme l'écho et tout, là. Ouais,
que,
ouais, ouais.
que tu sais dans quoi tu vas t'aventurer, tu sais dans quoi, qu'est-ce que tu vas jouer, tu le sais où se passe
ouais,
le tableau à cause de la musique.
Ben, c'est comme aussi les niveaux aquatiques aussi. Est-ce que la musique, tu sais, comme il y a un, je sais pas, c'est très planant, c'est très vague.
Ben oui, c'est très New Age.
Et ouais, c'est ça, exactement.
C'est très New Age, c'est très ASMR. Puis je crois qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écoutent Aquatic Ambience, qui est la musique oui. du tableau d'eau, pour s'endormir.
Je suis pas mal sûr que j'ai entendu des rappeurs trap là, faire des beats.
Des rappeurs trap!
Sur SoundCloud. Là,
des SoundCloud rappers.
Sérieusement, je suis pas mal sûr que j'ai entendu plusieurs en plus.
C'est exactement pour ça qu'on voulait avoir André Péloquin.
On dirait un podcast de Vice.
C'est une niaiserie, là.
Non, parce que c'est extraordinaire. Tu nous amènes des faits que...
Des perles.
Je me mind-blown moi-même parce que c'est extraordinaire.
Je sais pas, c'est comme la fois que j'ai dit roulant au lieu du skate, puis le monde était vraiment comme « Oh my God, t'as quel âge! »
Ben, c'est vrai que tu dis des expressions bizarres, mais c'est parce que moi, je suis latino-américaine, je comprends pas.
Oh my God.
Mais, tu sais, c'est ça, c'est exactement le fait que, tu sais, un tableau d'eau, là, tout le monde déteste ça.
Oui, hein? Totalement.
Toutes les formes de tableau d'eau sont mardes.
Ouais. Sauf le tableau d'eau de Donkey Kong,
ah,
parce que
effet.
La musique fait que tu te concentres, puis tu arrives à finir. Notre sound guy, il dit non, mais c'est pas vrai.
Notre sound guy, il est pas mal gamer
ouais,
aussi.
Mais attends, est-ce qu'on peut amener deux petits bémols à la règle des niveaux d'eau? La musique de Super Mario Bros. Dans les niveaux d'eau est vraiment le fun. C'est une valse.
La musique est très bonne, mais aussi, il y a Dire Dire Ducks de Mario 64.
OK, ouais.
Je l'écoute des fois déjà.
Bon, et voilà. Puis je sais que je suis rentré vraiment dans l'art solide du Genesis tantôt, mais la musique, quand t'es sur le bord de manquer d'air, la sonique, c'est tellement un moment paniquant, puis ça augmente en cadence. Je m'en fous. Puis là, quand tu meurs, c'est pas une crise, c'est vraiment comme...
C'est l'enfer.
C'est tes bulles, là. C'est
l'enfer. Plus de
son, t'as rien. C'est ça, exactement. Vous devriez voir notre réalisateur en ce moment qui est très énervé.
Il est très stimulé par la conversation, j'adore.
Il est sonique en ce moment.
C'est
Marcel Marceau.
C'est magnifique à voir. C'est beau, là. Mais... Tu sais, on parle de ça. On parle aussi de Minecart Madness. Quand tu...
Oh mon Dieu Seigneur!
Voilà. Et à chaque fois que j'amène, justement, à chaque fois que j'amène un tableau, le nom d'un tableau, le nom d'une musique, il y a une réaction. Il y a toujours
oui,
une réaction.
Ouais.
Puis il y a toujours, justement, le fait que tu te rappelles de comme c'est quoi le maudit tableau, puis c'est où qu'il faut que tu sautes, puis à quel beat la toune faut que tu sautes.
Oui, le beat. Hein.
Ouais, les gens, ils savaient avec la chanson. Comment jouer le tableau, là.
Mm-hmm.
Puis il savait qu'est-ce qui s'en venait et tout quand le beat arrivait. Et la chanson Il y a une chanson qui a changé ma vie.
T'as l'air de vibrer.
Oh, ouais, ouais.
Mais il faut voir, t'as chanté un peu.
Fear Factory.
Le groupe?
Je savais que t'allais dire ça.
Mon Dieu, référence nu metal.
Oh, Fear Factory, qui est un mélange électro-xylophone, vaporwave, avant son temps.
Ben voyons donc.
Oh, ouais, ouais, j'appelle ça. Puis le bout mélodique, là.
Oui.
Il est extraordinaire. Je pense que cette chanson-là dicte parfaitement mes choix musicaux d'aujourd'hui, qui sont douteux à tes yeux, je le sais, André.
Voyons, j'ai rien
dit. Ça dicte exactement ça, là, la vibe, ce que j'écoute aujourd'hui, donc le vaporwave. Puis comment je pourrais chanter? C'est parce que je suis tellement mauvaise en chanson que...
Dans le fond, c'est comme c'est de la musique trippy un peu. Très trippy, des fois, ouais. Du dream pop un peu. C'est wow. Très dream pop.
Ben là, je vais réécouter la trame sonore de...
Je l'écoute à tous les jours, hein, ici au travail.
Vous me redonnez
une
le
à
goût,
deux
là.
Fois.
C'est fou, raide.
Mais bref, je pense que tout le monde, je l'ai vu la réaction ici en studio, tout le monde connaît la trame sonore de Donkey Kong Country. Tout le monde est capable d'associer un souvenir ou même juste associer le tableau directement avec la trame sonore de Donkey Kong Country. Mm-hmm. Puis ils savent parfaitement genre à quoi s'attendre, puis ils savent parfaitement quelle émotion vivre.
Ouais.
Mm-hmm. Puis ils savent parfaitement où est-ce qu'ils étaient quand ils ont joué la première fois, ou la deuxième fois, ou la 700 000 fois. Là.
Ouais, ben ça on le voit aussi avec, tu sais, on fait des sondages des fois sur nos réseaux sociaux de Pays sur Start parce qu'on pose des questions justement sur les musiques de jeux vidéo marquantes. Donkey Kong Country est tout le temps là-dedans.
Oui, tout le temps. Puis c'est une bande sonore qui va plaire à tout le monde. Là. Par exemple, les métalleux puis les rockers, ils vont adorer Gangplank Galleon. Les électroniqueux, je sais pas comment les appeler, les ceux qui aiment la musique électronique.
Les ravers.
Les ravers, eux, ils vont adorer Fear Factory ou Funky Fugue.
My God. Guys, je crois qu'on devrait se trouver vraiment différents groupes locaux là, qui font dans le même genre de musique, puis on se fait un concert hommage à Donkey Kong Country, puis on se noie dans les billets de dollars après.
OK.
Ouais, moi c'est un petit peu plus bref, parce que, bon, j'ai pas une grosse histoire, parce que quand il fallait que je choisisse dans les musiques, je me suis dit, on parlerait beaucoup probablement de trames sonores, des musiques qui ont été composées pour les jeux, mais j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Vous parlez de musiques qui ont été intégrées à des jeux, un peu comme Tony Hawk, l'exemple d'André.
Yes.
Tu sais, Tony Hawk qui nous faisait découvrir genre du Millen Collin, puis des affaires dans le même, quand on est plus jeune, ou qui nous ont fait découvrir le beau mélange que le rap et le pop-punk peuvent avoir ensemble, parce que c'est... Veux, veux pas, je trouve qu'il y a quand même une cadence dans ces musiques-là qui se rejoignent beaucoup.
Ah oui.
Moi, un jeu qui m'a affecté beaucoup avec sa musique, qui m'a touché beaucoup, ben une série de jeux, c'est Grand Theft Auto.
Ah, ben
je pense
oui,
souvent
ben
de Grand Theft Auto. Oui. Je pense souvent de Grand Theft Auto, non seulement je suis une très grande fan, là, c'est de, pas de la série autant que GTA V. GTA V, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est presque imbattable. Presque. Puis la musique m'a beaucoup affectée à cause que le poste que tu choisis en jouant à GTA, c'est le poste que tu vas garder. C'est le poste que tu vas écouter. C'est la même chose, mon père, encore une fois, qui lui écoute sa musique de vieux rock.
Oui.
Quand il joue à GTA, moi j'écoute la musique un petit peu plus moderne. J'ai découvert la musique grâce à GTA. Il y a eu une belle intégration. Tu sais, on sait que Phil Collins aussi est un très grand fan de GTA.
Quoi?
Phil Collins.
Quoi?
Phil Collins est dans GTA, pas de GTA 5, il est dans un autre titre, je me rappelle plus lequel, mais on le voit à un moment donné.
On voit un personnage qui est...
Oui, qui représente Phil Collins. Oui, oui, on écrit une couple d'affaires là-dessus.
Est-ce qu'il fait le bout de batterie de In the Air Tonight?
C'est ça, justement, on peut entendre une chanson de Phil Collins, un moment clé de GTA 5 aussi, donc c'est un clin d'œil à l'amour que Phil Collins a pour GTA et l'amour qui est très mutuel, là, tu sais, c'est très réciproque, les deux s'aiment. Donc, c'est fascinant. La musique, c'est quelque chose de très, très important dans les jeux du GTA. On sait que récemment, tu sais, on s'en rappelle que le jeu est sorti en 2013 et ils font encore des mises à jour de musique pour qu'elle soit plus actuelle. Et récemment, une radio a été ajoutée récemment, peut-être dans l'année, là, en 2017. Frank Ocean a eu son propre poste de radio.
Oui, c'est vrai.
Puis la musique de Frank Ocean, bon, c'est très à son image, c'est ce qu'on s'attend que lui écoute, mais les stations sont, ils représentent un peu ça. C'est un animateur souvent d'une personnalité qui est déjà connue, qui va agir en tant qu'elle-même ou pas. Comme l'exemple de la radio Boulevard, c'est les gars de Waves qui...
Le groupe de musique Waves?
Oui, c'est okay. Ça. C'est les gars qui jasent ensemble. C'est leur radio et c'est de la musique dans le même style un peu qu'ils ont, eux. Et eux, ils ont écrit une chanson qui est pour GTA, qui est une de mes chansons préférées de tous les temps. ever. Ça s'appelle Nine is God. J'en ai déjà parlé avec toi, André, dans un ancien podcast que tu avais ici, à Rock 1, pour les fans. C'est ça. Et eux autres, ils ont écrit une chanson qui s'appelle Nine is God. Allez écouter ça, c'est une très bonne chanson. Et ça raconte une histoire de GTA que tu connais si tu as suivi les Easter eggs du jeu.
Oh my God.
Donc, ils sont allés très, très deep.
C'est très profond.
Ils sont allés très deep. Donc, tu connais seulement les références qu'ils font si t'as jasé avec des NPC, si t'as lu les inscriptions sur des murs, si t'as pris le temps de lire des affaires. Moi, j'ai connecté les connect the dots, on va dire. Mm-hmm. Et quand j'ai réécouté les paroles, j'étais comme, oh my God, ils font référence à telle affaire. C'est ça? Puis, ça, c'est une façon de fidéliser son joueur. Mm-hmm. Parce que tu deviens passionné de cette histoire-là. Donc, la musique, encore une fois, joue un rôle super important. Cette tune-là revient souvent dans cette radio-là. Moi, je trouve ça fascinant. Frank Ocean, encore une fois, pour vous rappeler un peu, je vais vous donner quelques titres de sa radio. La chanson s'appelle Blonded. Mm-hmm. Donc, on sait que ça fait référence à son dernier album.
Exactement.
Un excellent album, d'ailleurs, que j'ai
très, pris. Très, très bon.
Donc, chanson, c'est Blonded Los Santos 97.8 FM. Donc, Blonded Radio, on a du Rihanna, du LCD Sound System. Donc, on voit encore une fois la belle variété de Frank Ocean. On retrouve sa personnalité. Il y a du Jay-Z, il y a du Frank Ocean, évidemment. Il est allé chercher aussi du Marvin Gaye, du Aphex Twin. Mm-hmm. Donc, on voit, c'est tellement à son image. Moi, je trouve ça magnifique. Il a aussi mis des trucs plus modernes, donc du Migos. Moi, c'est ça qui me fascine à GTA, c'est qu'ils sont capables de créer un univers avec la musique qui ne leur appartient pas.
Ouais. Puis en même temps aussi, tu sais, je veux dire, on le voit ensuite, il y a des gens, tu sais, sur YouTube, sur Spotify, qui vont faire des listes d'écoute avec ces chansons-là, et c'est encore à ce jour super populaire. Il y a des gens sur YouTube, par exemple, qui stream ces chansons-là, comme si c'était une radio 24h/7.
Ouais.
Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas la musique qui leur appartient, c'est même pas eux qui ont fait la curation des chansons, c'est les gens de Rockstar Games.
Les gens de Rockstar brillants qui ont été capables
de
faire.
Mais le monde, quand même, pour la facilité, comme, hey, j'ai envie d'écouter ça, cette radio-là, ben, t'as juste à te brancher maintenant sur Internet sans à jouer au jeu.
Rockstar a d'ailleurs sorti trois albums de GTA 5.
Ah oui,
des albums officiels. Oui, trois albums. Aïe, aïe.
Je me demande d'ailleurs si, comme Frank Ocean, ils vont commencer. Ça va être ça l'avenir de la musique du jeu. Est-ce qu'ils vont commencer à inviter des artistes à faire leur propre DJ? Puis c'est une plateforme idéale pour faire de la promotion. Là,
Je pense qu'on se dirige vers ça, mine de rien. Tu sais, je veux dire, par exemple, il y a eu du grand bruit quand les concepteurs du jeu Quake ont été chargés Trent Reznor pour faire la trame sonore, les effets sonores. Tu sais, ça a aidé quand même à faire connaître le jeu auprès du grand public.
Les années 90, là.
Exactement.
On
est au début, finalement, de ça, de ce marketing-là. Puis ça, il y a eu grand bruit aussi quand les gens de Rockstar ont dit, Josh Homme, de Queen of the Stone Age, a composé une chanson pour nous, pour la trame sonore Red Dead Redemption 2. Puis c'est ça aussi, on a embauché plein de personnes pour faire les musiques originales de Red Dead Redemption 2. Je crois que
Daniel Lanois, qui a fait de la musique avec U2, tout ça, c'est un Québécois. Donc, c'est très fort. On a des bons artistes, je pense, ici, locaux, qui peuvent participer avec des grandes compagnies pour faire... dans le fond, c'est de la job pour eux.
Oui,
ça leur fait du travail, c'est important aussi, je veux pas.
Puis on le voit au cinéma aussi, je veux dire, pour Black Panther, justement, on a fait grand bruit, comme, hey, c'est Kendrick Lamar qui a assuré la sélection musicale.
Insane!
Puis c'est vraiment une excellente trame sonore, c'est justement. Ça. Fait que tu marques un point, Christine, je pense qu'on va se diriger de plus en plus là-dedans. Là, ouais. Si c'est pas mettre la main sur la licence de label, finalement, ça va vraiment, on va faire appel à un artiste qu'on va lâcher lousse, un artiste de prestige, et puis ça va faire jaser.
C'est ça, dans GTA 5, dans le fond, c'est les personnalités de radio, ce sont tous des vraies personnalités qu'on connaît. C'est tous des acteurs ou des chanteurs.
Donc, tu joues des personnages des fois aussi?
Des fois, plus ou moins, ce sont clairement des versions exagérées d'eux-mêmes, mais je peux pas dire que c'est eux qui ont choisi la musique, probablement pas nécessairement, sauf Frank Ocean dans cet exemple-là. Mais on a des personnalités publiques, donc je pense que le GTA 6 va être encore plus axé vers les musiciens de Frank Ocean à cause de la nouvelle culture Spotify, où est-ce que tout est curated, on va dire.
Ben ça, justement, on le voit aussi sur Spotify, il y a vraiment beaucoup de playlists comme la sélection de tel média, la sélection de tel artiste et tout ça. Ouais, ça, justement, pour Rockstar, qui sont des tripeux de musique aussi, ça, vraiment, l'avenir s'annonce vraiment intéressant.
Le jeu type de la semaine.
Caz, jeu cheap de la semaine, on a d'ailleurs, t'en as parlé, artiste local, on va jaser de ça.
Oui, c'est mon petit segue spécial.
Ouais, c'était bon ça.
Merci.
Donc, jeu cheap de la semaine, un jeu que j'adore en plus.
C'est ça, j'ai pas encore joué, malheureusement, j'ai pas encore joué
moi,
à ce jeu-là.
Je suis très contente que tu l'aies choisi.
J'ai très très hâte d'y jouer, ça fait longtemps que je l'ai acheté dans ma bibliothèque à cause... ce qui m'a accroché de ce jeu-là, c'est quand j'ai lu que c'était Cœur de Pirate qui avait composé la musique pour ce jeu-là, qui s'appelle Child of Light, jeu québécois, jeu montréalais. Child of Light, qui est un jeu super cute. On dit que c'est le jeu cheap de la semaine, mais tu sais, c'est pas cheap dans son contenu, là. C'est le prix qui est pas cher.
Ouais, ouais.
C'est un jeu de 15$ en ce moment, qui est pas en rabais, c'est pas un rabais spécial. Il est à 15$, 14,99$. Sur Steam, vous pouvez le trouver sur console aussi. Un jeu rempli de douceur, de subtilité, mais qui a aussi des messages. C'est comme un jeu, on dirait qu'il est fait en aquarelle, tellement qu'il est beau.
Ouais.
Tu contrôles le personnage qui s'appelle Aurora. C'est en 1895, donc on joue dans un autre temps, mais le temps est pas vraiment... il est pertinent, mais il est pas important dans ces images-là, parce que c'est vraiment comme peinturé, comme une belle toile. Puis t'es guidé par la musique, puis ça, c'est tellement... T'embarques tellement dans un autre univers, puis je pense qu'il y a de plus en plus de jeux qui s'en vont vers ce style-là. Les rims, les journey de ce monde.
Gris qui s'en vient.
Les Abzu, est-ce qu'il y a la musique, des fois, très subtile, comme on parlait des petites gouttes d'eau, qui va suivre le joueur, qui va changer selon les actions du joueur. Il y a même des jeux de musique carrément où est-ce qu'il faut que tu chantes dans le micro. Donc moi, je pense que Child of Light fait partie d'un mouvement important en ce moment dans le monde du jeu vidéo, plus délicat, où, qui raconte une histoire, des fois, qui est moins évidente, mais quand tu y penses, t'es comme, OK, ça parle de tout ça. Céleste, un bel autre exemple, qui est d'ailleurs nommé comme potentiel meilleur jeu de l'année.
Un jeu canadien,
donc on félicite les personnes derrière ce jeu-là. Céleste, le seul jeu indépendant qui est là-dedans. Child of Light, 15$. Allez le chercher, ça vaut la peine.
C'est extraordinaire. J'ai joué 10 heures dessus.
C'est ça.
En une journée.
C'est ça. C'est une douceur pour les yeux. Moi, quand j'ai regardé le trailer pour la première fois, j'ai fait comme, oh my God, y a-tu pas un jeu qui est plus moi?
Puis je pense que c'est un jeu qui vieillit très, très bien.
C'est ça, c'est dans le fond, ces jeux-là, ceux qui sont très dans des images très douces.
Illustratifs.
On dirait que c'est fait par des artistes peintres.
Ouais.
Je pense que ça n'a pas besoin de vieillir. Dans le fond, c'est comme une œuvre d'art en soi. On ne regarde pas une toile vieille en disant genre, ah, c'est rétro. Tu sais, non, c'est juste c'est à l'image de son époque.
C'est tellement beau ce que tu dis.
Oh my God, ben, on a une artiste dans le bureau,
ouais,
les amis.
Ouais.
Et d'ailleurs, je vous demanderais... officiellement, écrivez ça dans votre horaire, de surveiller aussi le jeu Gris qui s'en vient bientôt, qui a été fait en partie par des artistes peintres et des illustrateurs qui devraient être autour des mêmes prix.
Oui, quasiment, on pleurait littéralement.
Ça sort au mois de décembre, checkez ça.
S'il vous plaît. Alors, je crois que tout ce qu'on s'est dit amène énormément d'émotions, de souvenirs et de sentiments.
Il y a de l'émotion dans l'air.
Un peu, quand
c'est
même.
Beau,
moi, je vais aller écouter une soundtrack après ça.
Ben,
là,
c'est
pas pour
exactement
vous,
ce que je vais faire, moi aussi.
Totalement. Exactement.
Mais merci énormément, André, pour ton savoir.
Ben, mon Dieu, merci à vous de m'avoir reçu. Là. Je vais passer la journée avec des écouteurs sur les oreilles et je ne vais pas vous entendre parler de plein de choses que je ne comprends pas.
On ne se parlera pas aujourd'hui, je pense.
Oh, mon Dieu. Mon rêve.
Oh!
C'est des blagues, mon Dieu.
Mais André, d'ailleurs, tu es notre boss, puis on peut te suivre sur Pays Start, mais on peut te suivre aussi sur Disque Dur.
Oui. Disque dur, jdm.com/disque dur. On est aussi sur Instagram, sur Facebook. On a un podcast aussi sur Cube qui s'appelle Question de Feeling.
Exactement, en référence
à cette chanson. Mais on ne la joue pas parce qu'on n'a pas les droits. Et c'est des enquêtes musicales et on a un épisode qui s'en vient sur le mystère de la musique country au Québec. C'est super populaire, mais on n'en parle pas dans les médias. Comment ça se fait? On a parlé avec Guylaine Tanguay, avec le gars de Bolduc Tout Croche aussi. C'est ça, on essaie de... C'est comme notre serial, mais en musique et beaucoup moins sérieux.
J'aime ça.
Merci beaucoup, André. Vous pouvez trouver Pèse sur Start sur les médias sociaux. Donc, Pèse sur Start partout. Instagram, Twitter, Facebook. Suivez-nous sur twitch.tv/Pèse sur Start. Puis, mettez-nous dans un petit follow. On est live tous les jours.
Oui.
À l'animation, Christine Lemieux et Casie Charbonneau. À la réalisation et au montage, Philippe Séguin. Notre musique d'introduction est composée par Frédéric Poirier. Une production Cube Radio.